おかしい、おかしい。
19 h à Kinshasa, place à présent au dialogue entre Congolais, à la présentation, Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir, rentrée parlementaire ce lundi au Palais du Peuple. Il s'agit de la dernière session ordinaire pour cette année 2008. Quelles sont les priorités de cette session à l'Assemblée nationale et au Sénat? Comment les parlementaires sont-ils s'attaquer à ces priorités? C'est le thème central de cette émission Dialogue en Congolais. Vous êtes nombreux à réagir sur ce thème. Nous reviendrons sur vos réactions et questions dans cette émission avec nos invités. Il s'agit entre autres de Maître Jean Bouillou, député national du PPRD, Thomas Loaka, député national du MLC, et le sénateur de l'ANP, Mwamba Moussikonke, vice-président de la Commission politique, administrative et judiciaire au Sénat. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Rentrée parlementaire, elle a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple. Quelles sont les priorités de cette session à l'Assemblée nationale et au Sénat? Officiellement, il s'agit d'une session budgétaire, mais elle va aussi se pencher sur d'autres matières. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président du Sénat l'ont rappelé dans leur discours d'ouverture de cette session. Le point avec notre consoeur Kelly Kouté.
Du côté de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette chambre, Christophe Lutundula, parlant au nom de Vital Kamerhe Empêché, a dressé un bilan avant de fixer l'orientation des travaux qui attendent cette session. Pour ce qui est du budget 2009, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a déploré le retard dans la transmission par le gouvernement du projet de loi budgétaire 2009. Il appelle le gouvernement à faire diligence pour que le budget ne soit pas traité dans la précipitation. Le 15 septembre, c'est la date butoir du dépôt de ce projet. Mais jusqu'à ce jour, selon Christophe Lutundula, le gouvernement n'a encore rien déposé. Il a en outre demandé aux députés d'être rigoureux dans le contrôle parlementaire.
Quoi qu'il en soit, lors du dépôt du budget de l'État pour 2009, le gouvernement devra expliquer à la représentation nationale les raisons de l'exécution du budget 2008, tel qu'il a été voté par le Parlement et promulgué par le président de la République. Après, à leur niveau, les parlementaires que nous sommes rectifient le tir à qui l'échec au cours de l'examen du prochain budget. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la bonne exécution du budget est aussi largement tributaire du suivi que nous devons à l'assurer dans les cadres du contrôle parlementaire. Apparemment, nous n'avons pas encore suffisamment fait bon usage des mécanismes de contrôle parlementaire et budgétaire prévus par la Constitution et aussi que par notre règlement intérieur. Votre bureau vous dit vous rassurer de la manière la plus formelle que les choses vont changer dans ce domaine.
Le retard du gouvernement dans la transmission du projet des lois budgétaires a également été dénoncé au Sénat. Le président de la Chambre haute du Parlement a beaucoup insisté sur le sens de la décentralisation. Pour Léon Kengo Adodo, la décentralisation ne doit pas se conformer au sécessionnisme.
Nous tenons à rassurer l'opinion que la réforme de la territoriale ainsi engagée ne peut être considérée ni dans son essence ni dans sa lettre comme une forme subtile d'indépendance ou d'incitation à la sécession des forces. Nouvelle réforme s'inscrit strictement dans le respect des valeurs républicaines. La réforme de la territoriale engage tous les Congolais et les responsables politiques, en particulier à rompre avec le présentateur du passé, le doute et la peur.
Notez que cette session budgétaire ira jusqu'au 15 décembre 2008.
Il faut signaler qu'à l'Assemblée nationale, en plus du budget, il reste comme texte à adopter la loi sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a d'autres lois sur la décentralisation, comme la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi sur la Cour de cassation, le Conseil économique et social, la loi sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et au Sénat, en plus de ces lois, on ajoute la loi sur l'amnistie, la loi financière et la loi sur la protection de l'enfant. Alors, question avec nos invités de ce soir. D'abord, avec commençons par les députés nationaux. Jean Bouillou, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, le micro n'était pas très ouvert. Bonsoir.
Bonsoir.
Ok. Jean Bouillou, comment vous avez réagi, vous, au discours du premier vice-président du Sénat, Christophe Lutundula, qui remplaçait Vital Kamerhe Empêché?
Oui, d'abord, je dis que c'est un discours très responsable et très strict vis-à-vis du gouvernement. Et il a focalisé sur le budget 2009 en traçant clairement qu'il fallait consacrer le meilleur des dépenses à la défense nationale et à la sécurité du territoire national, au solde des militaires et des policiers, ainsi que à la condition des fonctionnaires et des enseignants. Ça, c'était le point d'entrée, et je crois que c'était le point important, parce que il faut effectivement que le budget, aujourd'hui, contienne ce que nous voulons réellement faire, et pas... Ensuite, il est revenu sur un thème aussi important que le contrôle parlementaire, l'urgence de ce contrôle, le sérieux de ce contrôle, parce que si vous avez suivi la législature passée, on a beaucoup plus, en quelque sorte, dans l'opinion, condamné les députés de la majorité comme s'ils faisaient une sorte de complaisance avec les ministres de la majorité. Et je pense qu'il était important aujourd'hui de recentrer les choses, de dire que le Parlement ne doit pas être complaisant. Il reste l'organe de contrôle et il faut que ce contrôle soit exercé. Le troisième élément important, c'est les différents dossiers que j'ai énumérés qui vont faire l'objet de l'examen, parmi lesquels je vois d'un ordre, disons d'un œil très critique, le dossier de la justice et justement de la loi sur la décentralisation. Et ces deux éléments importants, faut-il reconduire en quelque sorte l'indépendance de la justice? Faut-il aller vers les démembrements vers les futures provinces? Et j'étais heureux que ces questions aient été soulevées de manière aussi claire. Enfin, il y a eu d'autres questions aussi, mais je crois que ce sont des points qui ont retenu mon attention et pour lesquels j'ai trouvé le discours assez original et assez osé.
Oui. Votre avis, Thomas Loaka, bonsoir.
Bonsoir, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a deux points sur lesquels nous pouvons dire quelque chose dans le discours du premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'abord, sur les tons critiques. On a remarqué qu'il y a un changement d'attitude dans le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il parlait au nom du bureau de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, tout le bureau de l'Assemblée nationale est composé des cadres de l'AMP et alliés. Donc,
de les rappeler.
Oui, on les rappelle parce qu'aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris par les tons critiques que le bureau commence à utiliser vis-à-vis du gouvernement. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale commence de plus en plus à prendre ses responsabilités.
Essayez de me regarder parce que là, vous regardez Jean Bouillou.
Oui, donc, à prendre ses responsabilités. Oui. Donc, les changements des tons, par exemple, lorsque le vice, l'honorable Lutundula, met en exergue le retard dans le dépôt du projet de budget 2009 dans le chef du gouvernement, lorsqu'il critique l'inexécution du budget 2008 tel que cela avait été adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, lorsque une affectation budgétaire est détournée de sa destination originale, on qualifie cela de détournement des deniers publics. C'est des infractions graves. Donc, Lutundula l'a dit, nous devons savoir maintenant pourquoi cela n'a pas été exécuté tel que nous l'avons décidé. Donc, il a dénoncé beaucoup de choses dans les chefs du gouvernement. Ça, c'est la première
chose.
Le temps nous a surpris parce qu'on était habitué à une certaine complaisance du bureau de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement AMP. Et aujourd'hui, ça nous a surpris agréablement. La deuxième chose que nous pouvons retenir dans ce discours, c'est notre préoccupation. La préoccupation est, et Maître Mbouyou, l'un des députés de l'AMP pour lequel j'ai beaucoup d'estime, il vient de me confirmer dans cette préoccupation, c'est la remise, la tentative ou l'idée de remettre en cause le redécoupage territorial tel qu'est prévu par la Constitution. Et je suis rassuré parce que tout de suite après, dans votre élément que vous venez de passer, on a vu que le Sénat a un autre amendement. Il dit qu'il faut aller dans ce que la Constitution a prévu. L'honorable Lutundula et Maître Mbouyou disent que c'est peut-être le moment de faire une pause, de réfléchir.
On va revenir justement à la question
qui est soulevée par cette remise en cause rampante des dispositions constitutionnelles par l'AMP.
On va y revenir, Thomas Loaka. C'est bien de souligner quand même. On a senti cette différence de ton sur cette question de la décentralisation. On va y revenir avec vous. Mais le temps de prendre, donner la parole aussi au sénateur de l'AMP, Mwamba Mushikonke. Bonsoir aussi à vous.
Bonsoir.
Voilà. On a suivi que le gouvernement, déjà au niveau de l'Assemblée nationale, hein, on a senti que on a été critique par rapport à l'exécution du budget par le gouvernement central. Est-ce que c'est le cas au niveau du Sénat? Est-ce que vous avez la même lecture?
Oui, de toutes les façons, comme vous le savez, le Sénat a toujours été comme tel.
Et c'est quoi comme tel?
Comme tel, c'est-à-dire a été toujours critique. Chez nous, c'est comme ça, nous sommes habitués à critiquer, mais pas dans le sens de détruire, mais critiquer dans le sens de construire. Et surtout, comme vous le savez, le président a centré son discours dans la logique d'un discours pédagogique. C'est ainsi que vous avez vu qu'il a, comme, il a centré son discours sur les trois points. Le premier point est entré à l'analyse de la situation en RDC. Et le deuxième point, c'était la vulgarisation des trois lois portant réforme territoriale, c'est-à-dire la loi portant libre administration des provinces, la loi sur la conférence des gouverneurs et la loi sur la décentralisation, donc composition, organisation, fonctionnement.
Mais ça, c'est des lois déjà votées.
Mais il fallait vraiment donner l'essentiel de ces trois lois dans une synthèse lors de cette ouverture.
Mais pourquoi le président du Sénat, Ken Wazondo, a beaucoup insisté sur le sens de la décentralisation? Pourquoi?
Oui, parce qu'elle a compris que la décentralisation, comme une nouvelle réforme en RDC, en tenant compte des constituants qui a voulu que la décentralisation soit une réalité qui tient compte des aspects même théoriques. Vous avez vu que depuis longtemps, la décentralisation était vidée de tous les sens, tels que prévu au passé. Il y avait des organes qui ne jouaient pas les rôles de contrôle, qui étaient prévus comme des organes consultatifs. Maintenant, ici, je voulais seulement donner cette différence-là, que la décentralisation telle qu'est prévue, ce n'est pas l'essence de la décentralisation telle que le passé prévoyait des organes vidés de tout sens. Alors, il voulait aussi insister pour faire voir que le train de la décentralisation est à rail. Il ne faut pas hésiter. Il faut aller tout droit au but. Parce que, comme vous le savez, les découpages est prévu.
Malgré les dérapages qu'il m'a dénoncé au niveau
des dérapages du maire de la Tunisie. Bon, comme vous le savez, là, il y a à boire et à manger. Ce qui est vrai que l'interprétation est individuelle, mais ce qui est vrai que nous allons nous occuper de ce qui est essentiel de son discours, c'est pour dire tout simplement que le découpage, ce n'est pas une affaire du Parlement. D'abord, c'est l'affaire du constituant. Quand vous examinez l'article 2 de la Constitution, le découpage est effectif. Et en plus, l'article 3, c'est la loi portant libre administration des provinces, nous avons réitéré cette volonté-là. Donc, je pense que il est difficile aujourd'hui que toute personne bien avertie puisse s'opposer au découpage.
Voilà, donc on retient que par rapport au processus de décentralisation au niveau du Sénat, on tient à ce que le processus se poursuive.
Exact.
Voilà. Mais ce n'est pas le cas au niveau de l'Assemblée nationale, Jean Bouillou. Là, on a senti, déjà, il y a eu cet appel à la réflexion annoncé par Christophe Lutundula, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que l'Assemblée nationale, ou du moins le bureau, veut pousser les députés nationaux à hésiter, à faire marche arrière?
Non, disons, là, je suis tout à fait à l'aise parce que il y a deux tons différents entre le Sénat et un peu les deux bureaux. En fait, si vous avez bien suivi le discours du président du Sénat, il revient sur la question de la décentralisation pour souligner qu'il ne s'agit ni d'une indépendance, ni de sécession. En fait, il veut là souligner les attitudes de certains gouverneurs qui n'obéissent pas aux édits, disons, aux décisions, aux arrêtés des ministres nationaux, tout comme des ministres nationaux qui prennent des dispositions ou, disons, qui veulent statuer dans des domaines qui sont soit des provinces, soit des domaines concurrents. Mais moi, venant d'une province comme le Katanga et élu de la ville de Lubumbashi, je suis marqué par la bonne gouvernance provinciale des autorités actuelles. Nous avons une équipe de gens dynamiques qui essaient de répondre aux problèmes les plus immédiats, si bien que vous sentez plus sur le terrain la gouvernance des provinciaux que la gouvernance du gouvernement central. Je dois bien le dire. Mais le danger, c'est...
Vous parlez de l'équipe de Moïse Katumbi.
Oui, l'équipe, ça, il faut lui reconnaître le mérite. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est que l'exécution du budget actuel, qui prévoit que plus ou moins 22% doivent être retoussés de province, sous les 22%, le gouvernement provincial n'a reçu que 8% depuis le début de l'année. Alors, comprenez l'embarras dans lequel on se trouve. On veut bien qu'il y ait une bonne gouvernance provinciale, on veut bien qu'il y ait une... Il y a même une loi sur la libre administration des provinces, mais les moyens qui doivent être donnés par le gouvernement central aux provinces ne sont pas libérés. À ce moment-là, que faut-il attendre des gouvernements provinciaux, s'ils n'ont pas les moyens et s'ils n'ont pas la capacité de négocier et de gouverner, comme le cas de la capacité du gouvernement provincial de Katangas. Bon, donc moi je dirais qu'on voit plus la question de la décentralisation comme désobéissance des entités décentralisées vis-à-vis du gouvernement central, et je n'appuie pas cette désobéissance, mais il faut aussi voir la responsabilité du gouvernement central dans la réussite de l'action des provinces au vu de la Constitution et des lois que nous avons librement adoptées. Mmh. Et je crois que le débat devrait être poursuivi dans ce sens-là. Quelle est la capacité du gouvernement central de respecter les lois en faveur des provinces ?
Thomas Loacar. Sur la question de la décentralisation, donc, comme on l'a dit, il y a un ton différent selon qu'on est du Sénat ou de l'Assemblée, en tout cas des bureaux. Des bureaux. On comprend tout à fait l'état d'esprit du Sénat parce que, comme vous le savez, les sénateurs sont des élus. Ils ont été élus par les élus locaux, donc en fait ils représentent les entités territoriales, ils sont plus sensibles à cette question-là. Et, alors que nous représentons toute la nation congolaise au-delà de nos provinces ou de nos circonscriptions. Mais par rapport à la question de la décentralisation, nous disons qu'il ne faut pas, parce qu'une mesure qui avait été décidée connaît quelques difficultés d'exécution sur le terrain, il faut faire marche arrière. Ça, c'est le raisonnement congolais. Dès qu'il y a un petit obstacle, quelques difficultés, au lieu de résoudre les difficultés, au lieu de sanctionner, pour parler plus clairement, il y a le maire de Lubumbashi qui a fait une bêtise en prenant cette décision qui a été annulée avec retard, nous le déplorons, par le gouvernement central. Au lieu de sanctionner ses comportements, au lieu de se limiter à annuler l'acte, le monsieur devait être poursuivi pour violation de la Constitution, ben, on dit non, puisqu'il y a eu des dérapages, on remet tout en cause. Non, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Il faut résoudre les difficultés là où elles apparaissent, ne pas remettre en question les principes. Parce que ce qui va se passer, aujourd'hui, dès qu'on a une petite difficulté, on fait marche arrière. Dès qu'on a une petite difficulté, on revoit la Constitution, parce que, comme vous le savez, la décentralisation, le redécoupage, c'est prévu par la Constitution. Pour pouvoir revenir en arrière, il faut modifier notre Constitution.
Donc, si on vous entend, Thomas Loacar, vous suivre, donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'appel à la réflexion lancé par Christophe Lutoli?
Non, nous avons toujours été favorables à la réflexion. Mais ce qui nous inquiète, on a l'impression qu'il y a des options qui ont déjà été arrêtées au niveau de l'AMP allié et qui sont maintenant en train de préparer les esprits. Ça, c'est notre préoccupation. Peut-être que Maître Mbouyou va me rassurer.
Maître Mbouyou, rapidement, avant de donner la parole.
Oui, d'abord, il faut que je proteste pour dire que le maire de Lubumbashi a pris des mesures bêtes. Non, ce sont des mesures de police. Ce sont des mesures de police. Peut-être qui ont une difficulté à être mises en exergue, parce que si chaque maire le faisait, ça aurait des répercussions, mais il demeure que les maires ont leur droit et leur pouvoir d'organiser, de sécuriser les populations. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'inquiétude sur l'inquiétude qui est donnée sur l'administration des provinces, mais je dirais que il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur le fait que l'AMP ou le PPRD préparerait une...
Il n'a pas d'idée préconçue, d'arrêter la
machine. Il y a des problèmes concrets. Aujourd'hui, si déjà le gouvernement central ne rétrocède, n'a plus que les 40%, promet 22%, et qu'il est à 8% pour le Katanga, qui est le problème, c'est que, alors, demain, on va amener les mêmes difficultés au niveau des districts qui deviendront provinces, et donc on va amenuiser de plus en plus les moyens sans que le gouvernement central puisse assister à cette nouvelle province. Mais alors, quelle est la valeur d'aller vers des réformes que nous ne pouvons pas maîtriser, ni financièrement, ni administrativement? C'est ça, il faut éviter des réformes qui n'aboutiront pas.
Oui, là, sûrement le sénateur Omamba, qui est aussi de l'AMP, M. Koko, vous allez peut-être dire un mot pour peut-être confirmer que l'AMP ne veut pas faire arrêter la machine de décentralisation.
Oui, moi je pense que quand les présidents de la République s'adresser au Congrès. Vous avez vu qu'il était applaudi par le chef de l'ANP, même de l'opposition, dont Thomas Loacar. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que dans la tête du chef de l'État, il n'y a pas cette présomption-là de faire reculer la machine qui est déjà avancée. Vous avez vu même, il s'était prononcé clairement par rapport à la révision de la Constitution. Donc, si la personne morale
n'est pas de cette vision-là. Je ne pense pas que ici on peut affirmer que l'ANP a tendance à retarder les choses. Je pense que ce n'est pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que je veux vous dire que la RDC, c'est un pays de droit, un état de droit. Et en état de droit, il y a un problème. Lorsqu'il y a abus de pouvoir, cela veut dire que la justice va faire son travail. Nous n'allons pas aujourd'hui, lorsqu'il y a abus de pouvoir, dire que non, comme il y a abus de pouvoir, alors ça ne va pas. Il faut arrêter. Non,
donc il faut corriger et puis avancer.
Il faut corriger et la personne habilitée pour corriger, c'est la justice.
Voilà, on va poursuivre cette émission. Sénateur Mwamba Moussikonkwe, vous êtes l'un de nos invités. Mwamba Moussikonkwe, voilà, je veux bien respecter la prononciation de votre nom. Le thème, c'est bien la rentrée parlementaire qui a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple. Comment les parlementaires comptent-ils s'attaquer aux priorités retenues pour cette session? Nous en parlons tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, pour vous qui voulez encore réagir, le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Rentrée parlementaire ce lundi au Palais du Peuple, comment les parlementaires comptent-ils s'attaquer aux priorités retenues pour cette session? Les parlementaires invités dans cette émission vont y répondre, mais je vous invite d'abord à suivre les attentes de quelques Congolais de cette nouvelle session parlementaire. Nous irons dans les rues de Goma, Kinshasa, Mbujima, Mbandaka et Bukavu. On les écoute au micro du réseau Okapi dans ces différentes villes.
David de Goma, pour nos députés, la priorité alors, c'est de permettre à nos populations de rentrer dans leur village d'origine. Nous aurions souhaité ainsi que nos députés puissent poser une motion qui fait allusion à la situation des crises sécuritaires au nord Kivu et d'aborder les autres points après.
Monsieur Léopold, je suis de Kinshasa. Je suis ravi que la rentrée parlementaire ait lieu. Et nous tenons à faire l'analyse du budget 2009 soit suivi de près. Pourquoi? Parce qu'en fait, le budget qui a été voté pour l'année 2008, vous avez senti que ce n'était pas un budget tellement social. Nous voyons le paiement des fonctionnaires, le paiement des militaires, le paiement des policiers.
Pasteur, je crois qu'il sera de la 30e, c'est l'école, je m'en ai. Dès que les parlementaires entrent dans leur réunion, il faut qu'ils pensent surtout à la hausse des prix des maïs et puis de l'eau qui nous embête toujours. Il y a des mamans qui meurent toute la nuit et qu'ils pensent aussi à des routes que nous manquons.
Je m'appelle Matila Maurice de Mbandaka. Pour moi, je vois que cette session budgétaire n'a pas d'importance parce que les députés, les sénateurs vont se taper de gros salaires sur notre côté. Mais les fonctionnaires et les enseignants sont oubliés.
Je suis un habitant de Bukavu. Pour moi, tout est prioritaire. Qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation. Et la sécurité est aussi d'actualité. S'agissant du nord et du sud du Kivu, il fallait aussi regarder la situation des militaires, les prendre en charge pour qu'ils nous garantissent la sécurité nécessaire.
Je demanderai à notre Parlement d'être un peu souple dans son calendrier, compte tenu de la situation qui préoccupe l'Est, particulièrement au nord du Kivu. En dehors de la session budgétaire, qu'ils essaient de voir le plus rapidement avec le gouvernement quelles sont les nouvelles stratégies par rapport au programme Amani, en interpellant le ministre concerné de l'Intérieur, des Affaires étrangères et celui de la Défense.
Voilà, Thomas Loarka, vous êtes député national du MLC. Vous avez suivi le discours du premier vice-président de votre chambre du Parlement. Est-ce que vous avez l'impression que, à suivre les attentes de la population à travers ces éléments que vous venez de suivre là, est-ce que vous partagez les mêmes priorités ou préoccupations que la population?
Oui, certains éléments se retrouvent, que nos compatriotes auditeurs viennent de nous dire. Par exemple, lorsqu'ils se préoccupent de la sécurité à l'Est, ça doit être une priorité pour nous. L'exécution du budget, le budget n'a pas été exécuté tel que décidé, ça a été dit dans les discours du président AI de l'Assemblée nationale, l'honorable Lutumbula. Mais là où il n'y a pas, je n'ai pas entendu, j'ai été peut-être distrait pendant les discours, c'est la situation sociale. Notre compatriote de Mbujima, il nous dit que la hausse du prix de maïs, difficultés, des problèmes d'eau, des fournitures en eau potable, et des problèmes des infrastructures routières, je pense que cet aspect-là a été peut-être oublié dans les discours. Et nous, nous engageons, nous de l'opposition, à militer pendant cette session pour que les préoccupations sociales de la population, comme vous le savez, il y a la grogne presque partout dans le pays, même si vous êtes minoritaire. Même si nous sommes minoritaires, mais nous pensons quand même qu'il y a des gens raisonnables au niveau de l'ANP qui peuvent écouter ce que disent même une minorité, entre autres parmi ces gens raisonnables. Il y a bien sûr Maître Mbouyou. Donc nous allons parler en espérant qu'ils vont faire écho de la préoccupation, des préoccupations de la population pour faire pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes.
Alors, monsieur le sénateur Mamba Moussi Conquête, vous êtes aussi de l'ANP, que Maître Jean Mbouyou. Il y a cet auditeur, Hortense Routourou, je crois que c'est une auditrice du Nord Kivu. Elle dit que les députés règlent le problème sécuritaire de l'Est avant tout. Ensuite, pensez aux enseignants. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, moi je trouve que de toutes les façons, tout est prioritaire.
Comme
l'année. Mais néanmoins, okay. Pour la sécurité, les Sénats, à son temps, avaient déjà initié une mission dans ce sens-là, qui avait formulé des recommandations précises vis-à-vis du gouvernement. Et je pense que au retour, nous allons faire tout pour rappeler les différentes recommandations. Mais néanmoins...
Mais ce sont ces recommandations qui ne donnent rien, comme l'a dit Christophe Letondoula.
Oui, sur cette raison, nous disons que nous n'allons pas nous fatiguer. Et je suis sûr que dans les différents rapports de vacances parlementaires, une telle question avec le sénateur du Nord Kivu, Sud Kivu, et voire même de la province orientale, ne manqueront pas à souligner cela. Parce que c'est prévu pour cette session d'auditionner au moins les différents rapports de vacances parlementaires.
Merci. Alors, Maître Jean Rouillou, par quoi commencer, puisque le projet de loi budgétaire n'est pas là, les deux présidents qui ont ouvert la session aujourd'hui l'ont dénoncé, ils ont même déploré, parce que le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi budgétaire. Alors, vous commencez par quoi? Par la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, ou bien vous pensez d'abord sur le Nord et le Sud Kivu, ou encore sur la grève des enseignants et des médecins?
Ben, je crois qu'il y a deux questions prioritaires. Il y a d'abord la sécurité à l'Est, c'est inévitable qu'on puisse en parler parce qu'il y a des milliers de gens en déplacement, il y a un général qui tient en otage toute une série de gens, et c'est pour cette raison que le chef de l'État, justement, séjourne à Goma. Et cette question, sûrement, connaît un aspect militaire, mais connaît également un aspect diplomatique. Je crois qu'il faut la garder prioritaire, même au niveau du contrôle parlementaire, sur ceux qui sont censés la régler sur le terrain. Deuxièmement, il faut quand même, et le président intérimaire est revenu sur cela, il faut quand même que l'analyse du budget 2009 se fasse en rapport, en regard des difficultés sociales qui sont indéniables, indubitables. Et là-dessus, lorsqu'il demande que le budget 2009 ait un regard, après la défense et la sécurité, qu'il ait un regard plus spécial en direction des soldats militaires et des policiers, également des fonctionnaires et des enseignants, par le fait d'une prise en charge extérieure des investissements, si le surplus consacré aux investissements peut être reversé comme salaire pour augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui sont censés garder le pays et de ceux qui nous protègent dans la cité et de nos anciens fonctionnaires, je pense que c'est une approche qui demande du courage, même si cela devrait aboutir à la réduction des conditions matérielles des députés.
Mais qu'est-ce que vous allez apporter lorsque Christophe Lutundula dit que il donne un bilan presque négatif du contrôle parlementaire? Il dit que c'est un contrôle qui n'est pas suffisant, un contrôle qui n'a pas de sanctions. Qu'est-ce que vous allez apporter finalement?
Je crois qu'on doit le renforcer. Il faut plus de rigueur vis-à-vis du gouvernement, ça c'est clair. Il y a à demander au gouvernement de faire son travail. C'est pas un parlement qui gouverne le pays, c'est quand même l'exécutif qui gouverne le pays et qui doit pouvoir le faire. Et le sens, rappelez-vous toujours Confucius, quand on lui posait la question sur ce qu'il n'avait pas dans un pays, que faire, il dit, quand plus rien ne va dans un État, il faut commencer par donner à chaque mot son sens. Si le rôle, la mission du Parlement est d'exercer un contrôle sur le gouvernement, il faut que ce contrôle commence et qu'il aboutisse à des sanctions.
Et est-ce que c'est à mi-chemin, comme vous a rappelé d'ailleurs, hein, Thomas Loaka, Christophe Lutundula vous a rappelé que vous êtes à mi-chemin, hein, de la fin de votre mandat d'élu. Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait?
Non, en tout cas, dans les contrôles, c'est comme M. Mbouyou l'a dit, il faut des sanctions. Être responsable, ça veut dire répondre de ses actes. Jusqu'aujourd'hui, à mi-mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Systématiquement, automatiquement, la majorité AMP Palou, AMP et alliés, protéger les ministres et les gestionnaires en fonction, même si les preuves accablantes établissaient la responsabilité de ces animateurs des institutions dans tel ou tel dossier. Il n'y a jamais eu de sanctions. Vous ne pouvez pas faire des contrôles efficaces si cela n'aboutit pas à des sanctions. Les gens viennent là-bas, ils font de la politique spectacle à la télévision et puis il est applaudi par sa majorité. Nous nous réjouissons aujourd'hui de voir les changements de ton au niveau des députés, peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'on est maintenant à mi-mandat et que la sanction de la population va être sévère. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que nous devons arrêter avec la complaisance vis-à-vis de ces gouvernements qui risquent de les entraîner dans l'échec lors des prochaines échéances électorales. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit.
Monsieur le sénateur Mwamba Moussi Konke, il y a Eloko Ikenya de Baraka, c'est un auditeur, qui semble vraiment être déçu, lui, du choix des élus, c'est ce qu'il dit. Il pense que nous n'avons rien à espérer de ces rencontres, car, à son avis, nous avons fait un mauvais choix des élus qui sont insensibles aux problèmes de la population.
Bon. De toute façon, il faut distinguer, il y a des types d'élus comme l'honorable Wakala.
Vous êtes dans quel camp d'élus?
Oui, nous sommes élus au second degré et nous avons un mandat précis. La sanction dont il est question, nous avons une seule sanction, qui est la publicité. C'est-à-dire on dénonce, parce que nous n'avons pas la responsabilité de sanctionner le ministre par motion de défiance ou de méfiance. Comme vous le savez, le Sénat au moins a d'autres moyens de contrôle, mais la sanction primordiale c'est la publicité. C'est-à-dire lorsqu'on dénonce le mal d'un ministre au Sénat avec des arguments soutenus, comme c'est le cas souvent, et le ministre se sent réduit. Donc chez nous il n'y a pas de spectacle politique, là c'est l'objectivité.
Maître Mbouyou. D'abord, je voudrais. Comment sanctionner efficacement les ministres? Parce que le gouvernement, c'est quand même l'exécutif.
C'est l'exécutif. Je voudrais justement à cet égard réagir rapidement à ce que mon collègue Thomas Loaka a dit, disant que l'AMP, les PALO, leur association a protégé le gouvernement et tout ça, et que maintenant on se réveille. Non, pas du tout. D'abord, il fallait donner une chance à ce gouvernement. 2007, il a été placé devant des difficultés certaines, notamment le fait que l'appui budgétaire qui devait aller vers les investissements n'a pas été libéré par la Banque mondiale, la Fonds monétaire. Vous le savez, après plusieurs négociations, ils se sont avérés finalement non concluants. L'appui budgétaire côté investissement 2009 n'a pas encore été libéré et nous sommes en train d'aller au deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Les recettes habituelles, qui sont consommées dans les dépenses courantes, notamment les salaires et toutes les dépenses courantes.
Alors, est-ce que c'est la seule raison, excusez-moi, la seule raison, les bailleurs, quand on sait qu'il y a eu des manquants, il y a eu des tournements de fonds, des milliards de dollars, est-ce que c'est la Banque mondiale? Il faut accuser la Banque mondiale.
Oui, non. Il faut suivre l'exécution d'un budget. Dans le budget, les fonds recueillis dans la gestion quotidienne devaient servir, en quelque sorte, à la gestion quotidienne. Les investissements sont financés par les prêts extérieurs acceptés par la Banque mondiale. Mais lorsque la Banque mondiale ne vous donne pas ses prêts, budgétairement, ça devient difficile d'investir. Vous voulez investir comment? Et lorsque même le gouvernement prend des accords tout à fait particuliers avec un pays qui accepte de financer des investissements, vous voyez, c'est de lever le bouclier de tout l'Occident. Donc, c'est dire qu'il y a eu quand même des difficultés concrètes. Et ce qui ne veut pas dire que dans ce gouvernement, il n'y a pas eu des malins qu'il faut justement écarter et qui profitent évidemment de la situation confuse. Donc il y a d'une part la nécessité d'un contrôle pour que le gouvernement assure la bonne gestion, et ministère par ministère, mais il y a d'autre part aussi la réalité de reconnaître que si quelqu'un doit gouverner, et doit être à la tête d'un ministère,
sans les moyens qui sont censés lui apporter le concours nécessaire à la réalisation de sa mission, bah, il faut quand même pas le rendre un ange. Il n'a pas les moyens, il ne pourra rien faire.
Mais concrètement, en un mot, maître Mbouyou Jean, qu'est-ce que vous pouvez faire au cours de cette session pour être plus rigoureux dans la sanction?
Au cours de cette session, je pense, comme le président intérimaire l'a relevé tout à l'heure, il faut revenir sur les rapports des commissions et voir qui devrait être sanctionné et qui ne l'a pas été. Parce que la sanction joue un rôle hautement préventif et il joue également un rôle éducationnel dans le cours de la gouvernance. Ensuite, il faut rendre effectif le budget. Je veux dire que si 2009 va être considéré maintenant dans cette session, il faut que nous puissions faire des prévisions réalistes et que nous puissions également faire des prévisions de recettes réalistes, de dépenses réalistes. Un tien vaut mieux que le tu l'auras.
Ouais. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, Thomas Jean, pas Jean, mais Thomas Loakapabo, du MSC, à Bassoma Bob, qui nous écrit de Kinshasa? Lui, il est pessimiste. Il dit que la plupart des résolutions prises par l'Assemblée nationale jadis n'ont jamais été mises en application par l'exécutif. Alors que dire de celles qui seront prises durant la session en cours? N'est-ce pas une distraction de plus? Qu'est-ce que vous répondez?
Non, c'est ça, nous disons notre préoccupation. Nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons dit que tel ministre, ça ne va pas. Les gouvernements, ça ne va pas. Même le gouvernement dans son ensemble, nous avons déposé une motion d'interpellation du gouvernement. Et c'est nos amis de l'AMP qui ont bloqué ça. Ça n'est jamais passé en plénière. On n'a jamais interpellé le Premier ministre. On nous rappelle que nous sommes des Africains, les patriarches sont très âgés, il faudrait les ménager un peu. Mais écoutez, ou on gère la République, ou on gère un village.
Donc pour vous, dans la sanction, si elle n'a pas été rigoureuse, la faute incombe à
la majorité, à l'AMP. Mais nous nous engageons, l'opposition, à faire notre travail, c'est-à-dire à tirer l'alerte, la sonnette d'alarme, à chaque fois que cela sera nécessaire. Nous allons continuer à dénoncer tous les errements, le manque de vision, manque de politique, les tâtonnements de ce gouvernement qui a été soutenu à bras les corps jusqu'aujourd'hui par cette majorité qui commence à se réveiller, gloire à Dieu. Donc nous allons continuer à les pousser à aller dans ce sens-là. Parce que Rapidement. Oui. On voit un peu la mystification de l'AMP. Qu'est-ce que Maître Mbouyou vient de nous dire? Il nous dit, voilà, nous avons adopté un budget qui était très important. Ils se sont tous enorgueillis d'avoir adopté un budget de plus de 3 milliards de dollars pour la première fois. Alors qu'on sait qu'il y avait des recettes artificielles, ils comptaient sur les dons qui ne sont pas venus. Maintenant, Maître Mbouyou, qui revient à la raison, dit, nous devons être raisonnables, adopter des budgets réaliste, c'est une bonne chose. Mais on voit que cette mystification a ses limites.
Voilà. On va poursuivre, mais d'abord, on prend la réaction des auditeurs avec Titine Poutou. Bonsoir.
Bonsoir, Claude, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Café, surtout des Dialogues entre Congolais. Le bouquin pour ce qui vous, Robert Bahomeux, veut savoir parmi ces priorités, lesquelles sont jugées priorités par les parlementaires et quel impact réel auront-elles sur la vie sociale du peuple congolais? Moussa Firi Gustave de Goma au Nord Kivu s'interroge en ces termes. Pouvons-nous parler des priorités au Parlement alors que tout semble confirmer que l'exécutif de ce pays considère moins les recommandations de ce même Parlement? Sinon, à quoi bon faire un travail qui sera par après saboté à tous les niveaux? John Lukika de Kindu au Maniema se demande si aujourd'hui nous pouvons considérer nos parlementaires comme représentants du peuple au moment où ils évaluent leurs émoluments par rapport aux députés d'autres cieux. Au lieu de les comparer avec les autres fonctionnaires de l'État, là il cite les enseignants et médecins. Pour sa part, Robert Kabandaï de Bukavu Sud-Kivu estime que les priorités à traiter ne sont entre autres que résoudre à l'immédiat et sans condition la situation de guerre à l'Est par des moyens pacifiques, aussi payés aux enseignants le premier palier de Mboudi. Quant à Mubika Ipati de Lubumbashi au Katanga, il dit ceci, au lieu de continuer à gonfler la liste des résolutions, les parlementaires devraient consacrer leur session à vérifier si les anciennes sont d'application. Enfin, Corneille de Bukavu Sud-Kivu réagit en ces mots, je cite, les députés qui a passé ses vacances parlementaires en Europe au lieu de se rendre à son fief, n'est-ce pas là une preuve d'immaturité politique? Dad, il n'aura rien à présenter si ce n'est que sa propre pensée.
Merci beaucoup, Tessin Poutou. On revient vers nos invités pour rapidement réagir à ces différentes questions et opinions de nos auditeurs. On commence par vous, sénateur Mwamba Moussikonke. Vous êtes sénateur AMP, vice-président de la commission politique, administrative et judiciaire au Sénat. Avec la question de John Lukika de Kindo Maniema, lui se demande si aujourd'hui on peut considérer nos parlementaires comme représentants du peuple au moment où ils évaluent leurs émoluments par rapport aux députés d'autres cieux, au lieu de se comparer plutôt au salaire des fonctionnaires de l'État et des enseignants ainsi que des médecins.
Merci pour cette question. Moi, je pense qu'il ne faut pas intoxiquer la population. Ce qui est vrai que on ne peut pas comparer un parlementaire à un fonctionnaire, ça c'est vrai. Parce que le fonctionnaire, il est à durée indéterminée, nous avons un mandat de 5 ans. Ça c'est vrai.
Donc vous avez intérêt à gagner.
Non, pas à gagner intérêt à gagner plus ou quoi. Là, c'est par rapport à la mission et au rôle qu'on doit jouer dans la société. Je pense que la théorie de la justice distributive, là, on n'en discute pas. Aujourd'hui, moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas discuter avec le chef de l'État ou avec les ministres. Dans tous les pays, nous sommes dans un état de droit, dans tous les pays, un ministre est honoré par rapport à son rôle qu'il joue dans la société. Un fonctionnaire, la même chose. Voilà. Ce qui est bon, nous pouvons seulement dire aux fonctionnaires que nous allons faire tout, nous sommes des représentants, nous allons faire tout pour que la justice distributive soit respectée et chacun ce qui lui revient.
Voilà. Là, on va avoir la réaction avec vous, maître Jean Bouillou. On a suivi Christophe Moutondoula, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui vous a demandé, vous, au cadre politique du pays, de serrer la ceinture pour manifester un peu plus de solidarité avec notamment les fonctionnaires et les médecins.
Oui, je crois que cette question de salaire des députés devrait être démystifiée, parce que en réalité, ce salaire est élevé quand vous le comparez au salaire d'un enseignant ou d'un fonctionnaire, mais dans le vécu quotidien des députés qui ont ce salaire, il y a quand même, disons, à redire, ils ne vivent pas si bien que ça, malheureusement. Ce salaire est de 4 000 $ par mois. Il faut le dire.
Officiellement.
Non, c'est le vrai salaire, c'est 4 000 $.
À part les avantages,
à part les frais de fonctionnement d'un parlement. Parce que dans la masse globale, parfois, quand on additionne tout, on dit oui, ça équivaut à 5 000 ou à 6 000 ou à 7 000, mais disons, ce que le député reçoit, c'est 4 000. Il prend 1 000 $ qu'il repaye à la banque pour le véhicule dont il a pris le crédit pour assurer son transport. Il lui reste 3 000 $. Il est vrai que quand, en termes tout simples, on compare 3 000 $ par mois pour un député et moins de 100 $ pour un fonctionnaire, on dit, mais de toute façon, c'est le jour et la nuit. Bon, mais moi, j'examine les gens qui vivent avec ces 3 000 $, notamment ceux qui viennent de l'intérieur. Il doit prendre en location une maison qui sait ça, qui va sûrement lui coûter autour de 1 000 $.
Non, mais il peut trouver une maison à 200 $, 150 $, on peut en trouver à 200 $ des maisons quand même. Hein,
mais bon, ça veut dire qu'on peut en trouver à 20 $ aussi. Bon, mais j'imagine un député qui va devoir vivre dans une maison pour représenter sa nation, parce que nous représentons la nation. Et donc, il va prendre un loyer autour de 1 000 $, il va lui en rester 2. Ce député, il a une femme et des enfants qui sont restés probablement à l'intérieur, comme c'est le cas pour beaucoup, et lui-même doit vivre ici à Kinshasa.
Mais oui, malheureusement, bon. On n'a pas beaucoup de temps pour tout ce débat. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire simplement qu'il est possible de réduire ce salaire, peut-être de 20%, de 30%, mais il ne sera pas toujours possible de ramener à un niveau du fonctionnaire ou à un niveau de l'enseignant.
Mais ce serait un pas quand même. Hein,
c'est un pas qui a été envisagé dans le discours du vice-président et que je trouve tout à fait valable comme piste de réflexion.
Voilà. Un mot peut-être de votre part, Thomas Loaka, sur cette question.
Non. Nous pensons que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fournir des efforts pour essayer de remonter les salaires de tout le monde vers le haut, ou bien faire l'exercice progresse niveler vers le bas. Nous pensons qu'il y a possibilité, il y a moyen d'améliorer les conditions sociales, surtout les revenus des employés de l'État. Vous savez que le chef de l'État a pris une décision qui institue un SMIC pour le secteur privé.
alors que les secteurs publics, on n'en parle presque pas, ce qui n'est pas logique. Donc, on devrait commencer par améliorer les conditions de vie des employés de l'État avant de s'occuper du secteur privé. Donc, nous pensons que il est possible, par une bonne politique bien réfléchie, bien définie,
merci,
de remonter les revenus de tout le monde.
On a compris votre. Juste un petit mot, en 10 secondes avec vous, le sénateur Mwamba.
Bon, moi, j'ai dit tout ça.
L'idée proposée par Thomas Loata, c'est.
Oh, oui, ça vous paraît. Il m'a pratiquement résumé.
Voilà.
Qu'il faut respecter la justice distributive.
Merci beaucoup.
À chacun, c'est qui lui réagit.
Merci beaucoup. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Paul Amunke était à la technique. Guy Roger Yampala à la réalisation. Kevin Kouté, Guy Maté, Willy Akonda et Jean-Claude Toumbakamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et un petit coucou à Claude Kianza qui est en repos.